L'UNEP, les entreprises du paysage et plateforme.garden vous présentent Alerte Bioagresseur.
La nouvelle série podcast à découvrir chaque mois dans le fil d'actualité de votre application
et sur les plus grandes plateformes d'écoute.
Alerte Bioagresseur, un podcast qui vous aide à trouver les solutions face aux maladies et ravageurs que vous rencontrez sur vos chantiers et à adopter les bonnes pratiques.
Alerte Bioagresseur, le podcast qui fait de vous
un véritable expert.
Ce podcast vous est offert par le SVP Bioagresseur de l'UNEP,
les entreprises du paysage
et l'app des pros du végétal,
plateforme.garden.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alerte Bioagresseur. Aujourd'hui, nous allons aborder avec Barbara Dekeyser, l'experte du SVP Bioagresseur de l'UNEP, le thème des maladies qui affectent les arbres, les vivaces et les arbustes. Nous parlerons notamment du chancre cortical sur les cyprès, des anthracnoses, des monilioses, ainsi que des oomycètes tels que le pythium et le phytophthora, et nous parlerons également du fil rouge sur les gazons. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur les symptômes de ces maladies et les méthodes de lutte préventive et curative. Bonjour Barbara.
Bonjour Jérôme.
Merci de votre présence et de votre expertise. J'ai une première question pour vous Barbara. Qu'est-ce que le chancre cortical sur les cyprès et quelles sont les mesures préventives et curatives recommandées pour les gérer ?
Alors, le chancre cortical, c'est vraiment l'ennemi numéro un du cyprès et ça peut conduire à la mort du sujet. Alors, c'est particulièrement présent sur tout ce qui est cyprès du sud de la France, donc toutes les espèces à Macrocarpa ou Sempervirens qu'on retrouve de plus en plus en France entière à cause du port très érigé des sujets. Et donc les variétés Totem, par exemple, sont particulièrement sensibles dans la moitié nord de la France parce que on a des arbustes qui sont pas vraiment dans leur climat privilégié. Oui. Et alors du coup, ce chancre cortical, il va produire des roussissements de rameaux qui vont être liés en repartant sur la branche elle-même, à des éclatements d'écorce souvent rougeâtres avec des écoulements de sève souvent. Il faut éviter toute confusion avec des insectes, mais logiquement, c'est assez significatif. Sur cyprès, c'est vraiment le chancre cortical qui est le plus souvent présent. Et vraiment, c'est lié au contexte climatique du grand des deux tiers nord de la France qui sont moins adaptés à ces espèces sempervirens et méditerranéenne de cyprès. Donc ce chancre cortical, la lutte malheureusement elle est très difficile puisqu'elle passe par la taille. Il faut couper les rameaux atteints qui sont autant de zones symptomatiques, de zones d'inoculum pour le reste de l'arbre et donc c'est quelquefois un travail extrêmement fastidieux à mettre en place sur l'arbre. Comme c'est un champignon qui va profiter des plaies pour rentrer, il faut veiller à avoir des outils de taille bien coupants, bien aiguisés toujours désinfecter si c'est dans la mesure du possible le plus souvent possible, si possible à chaque taille. Ce chancre cortical, c'est vraiment l'ennemi numéro un et c'est vraiment une question qui revient extrêmement souvent au niveau du SVP. C'est pour ça qu'on a voulu le mettre en lumière.
Très bien, en tout cas merci pour ces précisions et ces précieux conseils. Pouvez-vous, Barbara, nous expliquer les symptômes et les méthodes de lutte contre les anthracnoses et les monilioses ?
Alors, comme le chancre cortical, les anthracnoses et les monilioses sont des maladies fongiques extrêmement fréquentes au printemps et qui trouvent dans les printemps un peu humides avec des grosses amplitudes thermiques comme on a cette année, le moyen de s'exprimer pleinement. Donc, anthracnoses et monilioses, on a des symptômes assez proches, des symptômes sur bourgeons d'une part, qui vont ensuite s'exprimer sur les jeunes feuilles et sur les brindilles, les branches en développement, avec des dessèchements. La monilioses, elle a la particularité de momifier les tissus, c'est-à-dire qu'on va avoir des dessèchements, mais en général, la feuille, les fleurs desséchées, qui vont rester accrochées au rameau. La monilioses, une de ses sources de maintien, son inoculum principal, c'est de se fixer sur des fruits qui vont rester d'une année sur l'autre sur l'arbre. Et c'est pour ça qu'il est très important de supprimer tous ces fruits à la main. Il y a vraiment une particularité du champignon, c'est que le fruit est difficile à retirer. Il est vraiment très attaché à l'arbre et plus difficile qu'une cueillette en saison, par exemple sur les cerises ou sur les pommes. C'est vraiment la stratégie du champignon pour perdurer sur l'arbre et pouvoir recontaminer. Avec Moniliose, on a aussi des atteintes sur fruits, et c'est ce champignon qui cause les taches en pourrissement, par exemple sur cerises, avec des coussinets plus beiges. Les coussinets sont ronds, mais eux-mêmes sont organisés en rond, de façon circulaire, et donc on a des dégâts également sur fruits, et c'est ces fruits-là qu'on laisse sur l'arbre parce qu'ils ne sont pas appétissants, qui vont à terme dessécher et être la source de recontamination pour le printemps suivant. Avec anthracnose, on a des symptômes sur feuilles assez particuliers, avec des taches qui sont rarement circulaires. On a plutôt des choses qui vont être délimitées par les vaisseaux, et donc on a des formes très anguleuses de nécrose. Et donc l'anthracnose, on va la retrouver sur les platanes notamment, on va la retrouver sur les saules, on va la retrouver sur beaucoup de végétaux, on va la retrouver, elle existe également sur marronnier, où on l'appelle le black rot. Et la moniliose, on va la retrouver beaucoup sur tout le genre prunus, donc évidemment les arbres fruitiers, mais également les prunus à fleurs. Ça cause des dégâts qui sont relativement importants. La moniliose, elle peut finir par affaiblir tellement un arbre fruitier qu'il va en dépérir totalement. Donc ce sont des maladies difficiles à gérer.
Et donc il faut surveiller effectivement vu les dégâts que cela peut causer. Et Barbara, quels sont les traitements justement pour faire face à l'anthracnose, à la moniliose ?
C'est des traitements qu'on doit mettre en place précocement, surtout quand on a des printemps qui sont un peu humides. Théoriquement, il faudrait positionner les premiers traitements au moment de la floraison, un tout petit peu avant, lorsque les pétales tombent, et lorsqu'il est plus tard, en tout cas, puisque les zones symptomatiques sont à couper, à tailler, c'est de positionner une bouillie bordelaise juste après les épisodes de taille. C'est vrai également sur le chancre cortical pour les cyprès. La bouillie bordelaise a des actions désinfectantes, et donc elle permettrait de désinfecter un petit peu les plaies pour éviter que le champignon ne pénètre dans le végétal. Dans tous les cas, outils désinfectés, outils bien affilés, et taille soigneuse le plus possible par temps sec, puisque comme tous les champignons, il lui faut un peu d'humidité pour pénétrer les tissus végétaux, et donc le plus possible travailler par temps sec. D'une façon générale, puisque la moniliose atteint préférentiellement le genre prunus et donc les arbres fruitiers, et elle les atteint très tôt, dès la floraison, puisque également nos moyens de lutte sont essentiellement préventifs, parce que les fongicides de biocontrôle, que sont le soufre ou la bouillie bordelaise, sont des outils pour l'essentiel préventifs, il faut penser à positionner très tôt en saison les traitements, et ne pas oublier également la fin de saison, c'est-à-dire le moment de la chute des feuilles, avec les zones d'abscission, et donc qui sont autant de portes ouvertes pour les bioagresseurs en question. Donc un traitement des arbres fruitiers, des cerisiers à fleurs à l'automne, et très tôt en saison, apparition des feuilles, ouverture des bourgeons, première floraison, sont des traitements un petit peu systématiques qui peuvent être intéressants à mettre en place et qu'il faut garder en tête.
Barbara, quels sont les oomycètes les plus courants qui affectent les vivaces et les arbustes, et comment reconnaître les symptômes, et quelles sont les stratégies de lutte recommandées ?
Alors, les oomycètes, on a voulu faire un focus, c'est pas vraiment des champignons, c'est plus des champignons, longtemps ils ont été classés parmi les champignons. Mmh. En fait, c'est des organismes aquatiques qui sont non photosynthétiques, donc ça les rapproche des champignons, mais ils ont un mode de reproduction qui est souvent par l'intermédiaire de zoospores, et zoospores, on entend zoo, le terme qui définit l'animal, et donc on a des moyens de reproduction qui sont flagellés, et donc qui sont capables de se déplacer dans les milieux aqueux. Donc on a un mélange un petit peu entre la bactérie, le champignon. En tout cas, on a une particularité, c'est qu'on a cette capacité à se déplacer dans un flux d'eau que n'ont pas la plupart des végétaux. Ces oomycètes, les deux principaux rencontrés en cultures ornementales sont le pythium, les pythiums qui sont très souvent responsables de fonte de semis, donc des grands perturbateurs au moment des plantations et des semis, notamment sur gazon, et le phytophthora. Le phytophthora qui est un parasite extrêmement souvent invoqué, alors qu'il est peu présent dans les jardins et très présent dans la phase de production. Donc, il faudra toujours se méfier du phytophthora lorsqu'on vient d'introduire le végétal, lorsqu'il arrive de la pépinière. Là, il est beaucoup plus, en général, potentiellement porteur de cette oomycète et de cette maladie. Pour reconnaître Phytophthora, on regarde avec un greffoir, un outil, on écorce un tout petit peu au niveau du collet. Si on a un collet pâle, enfin la couleur habituelle de la plante, on n'a pas de Phytophthora. Et quand il y a présence du parasite, à ce moment-là, on a un collet noir, puisque c'est là que va se développer l'oomycète, pardon, entre le sol et la partie aérienne, et il va boucher les vaisseaux. Donc on a en général avec Phytophthora l'apparence d'un stress hydrique plantes manquant d'eau, alors qu'en fait on a un sol frais et humide qui aurait dû permettre la reprise des végétaux. Avec Pythium, on a en général un aspect de moisissure, hein, c'est souvent le cas des oomycètes, donc on va avoir un chevelu gris assez important, une moisissure grise sur la zone de collet également de la plante. Très vite, on va identifier la présence du champignon, surtout si le milieu est humide. On a ces grands poils, enfin cette production de grands poils gris au pied de la plante et puis une zone humide pourrissante au niveau du collet de la plante. Donc, deux pathogènes assez fréquents, mais plutôt sur des plantes nouvellement introduites au jardin ou dans les jardinières, mais pas tellement sur des haies anciennes, sur des végétaux installés. Les plantes privilégiées pour Phytophthora, ce sera les plantes de terre de bruyère qui sont particulièrement sensibles à ce bioagresseur.
Et du coup, quelles sont les stratégies de lutte alors pour contrer ces bioagresseurs?
La stratégie de lutte, Jérôme, c'est évidemment, puisqu'ils aiment les milieux aqueux, c'est d'arroser sans excès, évidemment. C'est de travailler avec un espacement entre les plants suffisant pour qu'il y ait une aération et donc un assèchement de la zone. Et puis, malheureusement, quand Phytophthora est présent sur une plante, ce sera de la mettre en quarantaine, de la sortir et de la détruire pour éviter qu'elle ne contamine. Parce que tous ont une capacité, pas tous les deux, en tout cas une capacité à se conserver sur les restes végétaux et dans l'humidité. Et donc, il faut vraiment extraire la plante au plus tôt pour éviter qu'on contamine également le sol et le substrat.
Barbara, existe-t-il des solutions de biocontrôle pour lutter contre les oomycètes ?
Elles se développent aujourd'hui et on peut espérer qu'à moyen terme, on ait des choses vraiment intéressantes. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à se tourner vers des solutions de mycorhisation, de levure, d'organismes fongiques ou bactériens antagonistes à la présence de ces bioagresseurs aquatiques. Et donc, il existe d'ores et déjà des solutions pour contrer ces maladies qui sont intéressantes lorsqu'on sait que le bioagresseur est déjà présent au niveau du sol. Pour être plus clair sur les moyens de lutte contre les oomycètes, soit on va dans la catégorie des produits de la famille des engrais, qui vont être plutôt qui vont favoriser la rhizogénèse et donc aider la mycorhisation, aider les organismes auxiliaires aux racines qui vont contrer du coup nos bioagresseurs présents dans le sol. Soit on va réellement vers des produits de stimulants de défense. Des défenses naturelles avec pour le coup du coup des produits avec une homologation, donc avec un numéro d'AMM. Il en existe contre le pythium, notamment à base de Clonostachys rosea ou éventuellement des stimulants à base de Rhizophagus, par exemple.
Nous avions parlé dans le sujet de gazon, au travers du fil rouge aussi, qui est bien présent cette période. Comment peut-on reconnaître et faire face au fil rouge sur les gazons ?
Le fil rouge, c'est une maladie qui est assez facile, en tout cas qu'on peut difficilement confondre à partir du moment où on va l'observer par temps humide. On a en général un gazon qui va sécher assez brutalement. En général, les brins sèches longitudinalement prennent un aspect de paille. Il n'y a pas de pourrissement, il n'y a pas de tissu noir un peu déliquescent. On va avoir, par temps humide, une teinte réellement rose de la tache. Ouais. La tache, elle va, au maximum de sa croissance, faire une trentaine de centimètres de diamètre, être plutôt ronde. Si on observe de près, cette teinte rose, elle est liée à la présence de filaments rouges, un peu muqueux, un peu poisseux. Si on les touche au doigt, ils s'écrasent. Et ces filaments rouges sont propres à la maladie, évidemment, et c'est pour ça qu'on appelle la maladie le fil rouge. Donc, on a en graminée particulièrement atteinte par le fil rouge, les fétuques et le régras, notamment le régras anglais. Mmh. Et donc, il faut, sont des semences à gazon extrêmement classiques dans les mélanges de jardin, ce qui fait que la maladie, elle est présente également dans les gazons moins sophistiqués que ceux des terrains de sport.
Comment peut-on lutter contre le fil rouge de manière efficace ?
Alors le fil rouge, on a de la chance, c'est une des rares maladies du gazon qui est totalement réversible, parce qu'en fait la plante sèche mais ne dépérit pas totalement. Mmh. Donc en fait, avec une fertilisation un petit peu dopée sur la période, on va avoir une disparition des symptômes sur le feuillage, avec les mêmes pieds de gazon, enfin les mêmes talles, qui vont repartir d'eux-mêmes. Donc ça, c'est une chance. Évidemment, on va être toujours dans la même stratégie par rapport au gazon, c'est-à-dire il faut éviter le plus possible que l'humidité reste très longtemps présente en surface. Alors quand c'est de l'arrosé, on ne peut pas tellement intervenir, mais pour les arrosages, c'est important de décaler les arrosages sur la fin de nuit pour que le gazon ne reste pas très longuement, enfin en tout cas les parties aériennes du gazon ne restent pas très longuement dans une ambiance humide. On va pratiquer tout ce qui est défeutrage, scarification si nécessaire, parce que la présence d'un feutre lui aussi conserve l'humidité et est favorable aux attaques fongiques en général. On va éviter tout ce qui fait beaucoup d'humidité longuement autour des gazons, donc essayer d'espacer un petit peu les arrosages pour avoir des arrosages un petit peu plus copieux, encore une fois en agissant sur l'ambiance des parties aériennes du gazon pour éviter qu'elles ne soient trop longtemps dans un brouillard et dans une eau qui permet aux champignons de s'installer. Et puis on va travailler sur cette fertilisation, donc avec une fertilisation adaptée, azotée, éventuellement un apport en calcium également qui peut être intéressant contre les maladies fongiques en général. Les solutions de fertilisation retard notamment sont intéressantes dans ce contexte pour avoir toutes les formes d'azote disponibles pour la plante et donc un effet relativement durable dans le temps. Alors il faut bien comprendre avec les maladies des gazons qu'aujourd'hui, avec les réglementations, on n'a plus d'outils fongicides à proprement parler et on a finalement très peu de fongicides de biocontrôle. Contrairement aux terrains de sport qui, eux, auront jusqu'à 2025, aux terrains de sport fermés au public, la possibilité de continuer à agir concrètement avec des produits spécifiques sur ces maladies. C'est donc la prévention absolument, qui doit primer lors de la conception du gazon et dans son entretien, avec toujours une démarche pour être très précoce dans la détection des maladies et puis toujours vigilant au niveau des chaussures qui pourraient circuler sur les zones tachées, sur les brins d'herbe contaminés.
En tout cas, merci Barbara pour ces précieux conseils, je le disais tout à l'heure. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode consacré aux maladies sur les arbres, les vivaces, les arbustes et même le gazon. Nous espérons que vous avez acquis de nouvelles connaissances sur la gestion préventive et curative de ces affections. N'hésitez pas à poser vos questions directement à Barbara Dekeyser, l'experte UNEP que vous retrouverez derrière le SVP bioagresseur qui est disponible sur l'application Plateforme Garden au travers de la fonctionnalité Jardi Alert et Coach. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode où l'on parlera des acariens sur les végétaux. Voilà, nous vous disons à très bientôt. Encore merci infiniment, Barbara, de votre présence et surtout de votre savoir important sur ces sujets-là. Je vous dis au mois prochain, Barbara. Merci.
À bientôt, Jérôme. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs.
Vous rencontrez un problème de bioagresseur sur vos chantiers ?
Interrogez directement l'expert UNEP sur l'application plateforme.garden.
Ce service est réservé aux adhérents UNEP.
Ce podcast vous a été proposé par le SVP bioagresseur de l'UNEP,
les entreprises du paysage
et l'app des pros du végétal, plateforme.garden.
Plateforme.garden.